C'est bon pour la santé, un magazine animé par Sophie Stanquet et Benoît Rassette.
Claudia Larochelle est une journaliste chroniqueuse et écrivaine québécoise. Après une formation collégiale en théâtre, un baccalauréat en journalisme et une maîtrise en création littéraire, elle a fait des apparitions dans plusieurs médias, notamment à Radio-Canada. Aujourd'hui, elle anime le webmagazine Lire sur Art TV, tient une chronique livre au téléjournal de Radio-Canada et écrit également pour les magazines L'Actualité et Les Librairies. Elle a deux enfants, Aurélie, 4 ans et demi, et Lambert, 15 mois. Elle a eu envie d'écrire des histoires à ses enfants et c'est ainsi qu'elle a sorti en novembre dernier La Doudou qui avait peur des dinosaures, puis au printemps 2018 La Doudou qui aimait trop le chocolat, aux éditions La Bagnole. Elle dit de l'écriture « Je déteste celles et ceux qui veulent à tout prix placer des beaux mots ou des métaphores appuyées. » Elle dit également « Si j'ai pu donner envie de lire à quelques personnes comme certains m'ont confié, je crois que j'ai une utilité. Être utile, c'est pas mal le but de ma vie. » Nous sommes heureux de la recevoir à notre émission, d'autant plus qu'elle est la porte-parole de Canal M. Mesdames, Messieurs, accueillons Claudia Larochelle.
Et c'est moi, Benoît Rassette, qui a l'honneur des premiers mots avec Claudia Larochelle. Bonjour, Claudia.
Bonjour.
On est aussi avec Sophie Stanquet.
Bonjour.
Et vous allez voir tour à tour à l'émission, des chroniqueurs, chroniqueuses vont venir, au-delà de notre histoire, de celle qu'on se raconte ensemble, oui. Vont venir nous parler santé. Il y a une chose qui me frappe en commençant avec Claudia Larochelle.
Je ne suis pas en santé.
Ah! Ben moi non plus. Soyons plusieurs.
Non, non, c'est parce que j'ai juste pour expliquer, j'ai une grippe en ce oui. moment, donc c'est ce qui fait que j'ai une drôle de voix. Donc c'est drôle parce que c'est quand même ironique, on parle de santé, je ne suis pas du tout en santé aujourd'hui, mais en général, j'essaie de me maintenir.
Ouais. Oui, ben on sent que vous êtes très en santé. Et effectivement, on s'en veut pas pour cette voix, même que... On pourra poser la question au naturopathe un peu plus tard dans l'émission. C'est un moyen là, de s'énergiser en voilà. ces moments difficiles de grippe qu'on vit tous. Hein? Je disais d'entrée de jeu que quand moi je vous regarde, je vois très rapidement l'ami. Vous avez quelque chose, cette aura-là d'ami, personne à qui on parlerait, très naturel, avec qui on fêterait aussi.
Ah ouais, c'est gentil.
Vous trouvez pas que vous ressemblez à l'ami un peu?
J'espère. Ouais. Mais je trouve ça gentil qu'on me dise ça. C'est vrai que je suis bien entourée. J'ai beaucoup d'amis. L'amitié, pour moi, c'est une valeur fondamentale. Je dirais même au-delà de l'amour. Je pense que l'amitié... Ah ouais. Je garde des amis depuis 39 ans. Donc, depuis ma naissance, j'ai des amis d'aussi longue date que ça.
On se garde en santé, souvent, d'avoir des gens autour de soi, ça, c'est certain.
Oui, oui, oui.
Puis, je dirais que ça va plus loin dans votre approche. Même quand vous rencontrez Dany Laferrière, vous n'êtes pas une animatrice guindée. Là, on peut s'imaginer en littérature parfois qu'il faut l'être, mais vous proposez, je trouve, une parole amicale sur la littérature. Est-ce que vous êtes d'accord avec
oui,
ça?
Oui, je pense que oui, mais je pense que ça fait partie aussi... Même si je voulais être guindée, je ne suis pas guindée. Ouais. Mais je peux jouer la dame guindée parfois, mais je réserve ça à d'autres personnes dans mon salon. Parce que quand je tiens salon, je deviens guindée. Ah oui, et je pense ouais. qu'actuellement, une des missions que je me donne, c'est de démocratiser la littérature, justement. Ouais. Je pense que la littérature peut... on peut très bien lire des choses plus pointues, des choses très intellectuelles. On peut lire comme des affaires un peu plus légères, on peut dire ça comme ça. Et je pense qu'il n'y a pas quelque chose qui est mieux qu'une autre chose. Et tout est dans l'approche, tout est dans la façon d'en parler. Et si moi, je veux que le plus de gens possible lisent, que ce soit l'ouvrier ou le professeur à l'université, mais je pense qu'il faut rendre ça le plus accessible possible, donner envie aux gens de lire. Plusieurs personnes pensent que la lecture, c'est quelque chose qui est réservé à une certaine élite. Mm-hmm. Encore les gens pensent ça, mm-hmm. alors que ce n'est pas le cas.
Oui. Bien, c'est heureux, on le sent, ce travail-là que vous faites de démocratisation de la littérature. D'ailleurs, vous avez toujours un peu tourné autour du jeu, parce que vous avez étudié en théâtre, jusqu'à l'écriture même, en étudiant la littérature, le journalisme. Vous êtes la figure ou une des figures de la lecture au Québec. Ouais. Est-ce que vous trouvez que vous êtes assez comme vous? Parce qu'il n'y en a pas tant que ça, des émissions littéraires, pas tant que ça, des personnalités comme vous qui le portent.
Je pense que s'il n'y en a pas beaucoup de gens qui portent ça, c'est parce que c'est, je dirais, il y a quelque chose de fondamental là-dedans. C'est beaucoup de travail, la lecture. Parler du livre, c'est lire d'abord. Et lire, ça demande un temps fou. Quand j'ai commencé à faire ça, à la base, je suis une journaliste. Et bon, peu à peu, c'est comme une spécialité que j'ai eue, qui est la spécialité de la littérature, parce que j'ai étudié là-dedans, j'ai une maîtrise en création littéraire.
Bon, on vous imaginait, on vous voyait souvent comme une chroniqueuse culturelle aussi.
À la base, c'est ça. Puis après, ben, c'est comme
une spécialité,
c'est mes racines. J'aime beaucoup lire, j'aime écrire, tout ça. Et je me disais, où je voulais aller avec ça, c'est quoi?
Non, mais est-ce que vous êtes la... Vous trouvez pas que vous êtes la seule ou qu'il n'y en a pas assez?
Je pense que, comme ça exige beaucoup de temps, lire, ben c'est sûr qu'il n'y a pas tout le monde qui va mettre cette énergie-là, qui va avoir le temps pour le faire. Même moi, quand j'ai commencé à faire ça, à faire ce travail-là, j'avais pas d'enfant. Et j'avais plus de temps. Maintenant, c'est de plus en plus difficile, si bien que je me lève très... je mets souvent mon cadran. Ben là, parfois, mon bébé me réveille très, très tôt, mais en me réveillant très, très tôt, ben, j'ai du temps pour lire. J'essaie de le faire le plus possible, mais c'est vraiment exigeant. Je pense que c'est une des raisons qui expliquerait peut-être le fait qu'on n'est pas beaucoup à faire ça.
Notre temps actuel rend ça difficile, le fait de s'asseoir,
l'instantanéité,
Piler, vraiment. C'est ça, hein?
Vraiment. Et on est de plus en plus appelés à faire autre chose. Il y a le téléphone intelligent, il y a les appareils, les ordinateurs, Facebook, les réseaux sociaux, il y a les satanés télé spécialisées, les séries télé, Netflix, ça
nous surtout la série télé.
Du temps, c'est fou. Alors, je pense que c'est de plus en plus difficile. Et il n'y a pas que ça. Je pense aussi qu'il n'y a pas une grande place pour parler. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut parler de littérature, où on peut parler de livres, de lecture et le faire avec passion, tu sais. Et le faire avec cœur, pour vrai. Il y a de moins en moins d'endroits, il y a de plus en plus de coupes dans les budgets qui sont attribués aux stations de télévision. C'est très, très difficile de se tailler une place puis d'avoir une vitrine en culture. Ouais. Les offres sont nombreuses.
Effectivement, mais donc vous persistez, vous signez, on comprend bien que lire, écrire pour vous, c'est un peu ça, la santé. Le téléphone, non. On ne sait pas d'où ça peut venir, mais il y en a un
ça
proche.
Fait partie, ça
c'est
fait
adorable.
Partie de... Ça fait partie de la vie moderne.
Au-delà du téléphone, chère Claudia Larochelle, qu'est-ce que vous faites pour vous occuper de votre santé, là, en dehors du fait que vous avez la grippe en ce moment?
Qu'est-ce que je fais pour m'occuper de ma santé? Mais maintenant, je mange bien, mais très longtemps.
Ça veut dire qu'avant, non?
Ah non, avant, je mangeais pas bien du tout, Non. J'ai été longtemps à mal manger. C'est-à-dire, c'est pas vrai. J'ai vraiment un amour vraiment infini, disons ça comme ça, pour la malbouffe. J'aime vraiment beaucoup le junk. Alors, j'ai été longtemps une grande consommatrice de junk, de choses grasses. J'aimais beaucoup les pâtes aussi, même encore aujourd'hui.
Mais le fait de plaisir là-dedans.
Les pâtes, c'est bon.
Oh, les pâtes, hein, c'est oui. Alors, je mangeais beaucoup, beaucoup à des horaires anormales, un peu cassés, tout ça. Et en ayant des enfants, je pense que c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment pris soin de ma santé. Je me couche tôt, je me lève tôt, mais je me couche tôt, j'essaie de prendre soin de moi, j'essaie de faire un peu plus de sport, je mange excessivement bien parce que je cuisine maintenant, on est presque devenu vegan à la maison. Presque.
Bravo.
Des petits écarts, évidemment. Mais j'essaie vraiment de faire attention de plus en plus parce que je veux vivre longtemps en forme avec mes enfants. Et puis, je trouve ça important qu'on mange bien à la maison, tout ça. Mais c'est sûr qu'il y a des moments où je me laisse aller dans le vin, le chocolat, les choses grasses.
Mais il faut faire ça de temps en temps.
Je suis une bonne vivante.
C'est quand même bien le vin et le chocolat. C'est pas trop gras. C'est pas la poutine.
Tout est dans l'abus, mais la poutine, c'est donc bon, la poutine. Non, mais maintenant, c'est juste une fois par semaine, je me permets. Une poutine par semaine.
C'est heureux, ça. De toute façon, on a un docteur ici, généralement, qui nous dit que ces choses avec modération sont très bonnes. Alors, on a vu parler à Claudia Larochelle du côté de la vie. Maintenant, on va aller, après cet instant musical, vers quelque chose comme l'intérieur, l'écriture, et peut-être quelque chose comme votre point de bascule dans la vie.
À
avec Claudia La Rochelle, ici Benoît Racette
et Sophie Stanquet.
Voilà, et ça nous fait plaisir de t'accueillir, Claudia, puisque publiquement, tu es la femme promotrice de la lecture, des bonnes habitudes, mais tu as aussi une force et une nécessité de l'intime, celui de l'écriture.
Oui.
Vous dire
oui,
ça comme ça?
Oui, oui, oui. C'est, ben, c'est une nécessité vitale pour moi, l'écriture. J'écris pas assez, selon moi. J'écris pas assez pour me faire du bien, parce que pour moi, l'écriture est en quelque sorte un peu thérapeutique.
Ouais.
Je le mets entre gros guillemets, mais j'ai pas de honte à dire que écrire pour moi réussit à panser quelques plaies, P-A-N.
Ouais.
Mais malheureusement, j'ai pas assez de temps pour écrire ce que j'aimerais ou ce que j'aurais envie ou besoin d'écrire, parce que l'écriture me sert beaucoup à gagner ma vie en ce moment.
Ouais.
Donc, c'est ça. Faut créer des espaces-temps à travers la lecture et l'écriture nécessaire et alimentaire, puis c'est pas toujours simple, ça.
Bien, c'est sûr que la création, bon, qu'on se le dise, c'est quand même pas comme ça qu'on gagne sa vie au Québec, mais non. En même temps, c'est exigeant d'écrire quand on est maman d'une jeune famille.
Oui.
Comment vous faites d'ailleurs? Bien, vous écrivez des livres pour enfants, ça, je sais.
Une chambre à soi, comme dit, c'est Virginia Woolf qui écrivait il faut avoir une chambre à soi. La chambre à soi n'existe pas en ce moment. Il n'y a pas d'espace mental non plus de disponible. J'ai une immense charge mentale qui prend beaucoup de mon temps. J'ai peu de tiroirs libres dans mon cerveau est comme compartimenté. Lunch, bain, bon, choses nécessaires, rendez-vous médicaux, puis bon, tout ce qui est l'intendance ou la vie domestique prend une place incroyable. Si bien que j'ai pas de temps pour ça, de réserver à la création. Si je le fais, c'est pour écrire des histoires pour mes enfants. Ça tombe bien, je m'en sers pour gagner ma vie aussi en même temps. Mais j'ai quand même hâte de reprendre le contrôle de l'écriture et de m'attribuer ce temps-là pour moi. Pas nécessairement dans l'espoir de publier ce que je vais écrire, mais vraiment, j'ai envie, j'ai un besoin de le faire. J'écris, je noircis des calepins parfois parce que j'ai des idées qui me viennent. Le fait de commenter des livres publiquement dans les médias, bon, ça implique qu'il faut que je lise beaucoup de livres.
Ouais.
Et de lire des livres et porter la parole des autres, ça me rend un peu furieuse parfois parce que je dis « Ah, je lis, je parle des livres des autres, j'aime beaucoup le faire, mais j'ai pas le temps pour moi, pour écrire moi-même ce que j'aurais envie de dire ou d'écrire. » Parfois, je lis des choses, puis « Mais c'est moi, je m'en allais écrire ça, j'ai juste pas eu le temps. » Alors, c'est... non, des fois, c'est frustrant, mais ça viendra, je veux dire, j'ai encore du temps, j'espère, pour écrire, ouais.
Ben c'est ça, vous avez encore une belle vie devant vous, mais il faut quand même le dire, le lieu de l'écriture, on dirait pour vous, c'est un lieu plutôt douloureux. Vous dites qu'il est curatif, qu'il vous aide à bien aller, mais je reviendrai entre autres à un extrait de votre essai personnel que vous avez écrit en 2011 alors que vous déposiez votre mémoire de maîtrise. Puis juste avant, il y avait ce roman formidable que vous allez éditer plus tard. Si vous permettez, je lirai le tout début de cet essai-là. C'est assez percutant. « À 14 ans, la dépression m'a happé. » J'ai alors cessé d'aller à l'école, de me laver, de me tenir debout. Je ne respirais que pour reprendre l'air d'urgence, comme si j'étais trop longtemps resté sous l'eau. Durant cette période, j'ai le souvenir très clair d'avoir sérieusement souhaité mourir. Mais je vivais. Après avoir touché le fond, m'être un peu relevé sans toutefois être assez solide pour reprendre mes occupations, je me suis mise à écrire dans un cahier Moleskin.
Ah oui!
Ouais.
Ouais, mais je ris, mais c'est pas drôle.
Mais vous rappelez du carnet Moleskine?
Ah ben oui, mais moi j'écris pas mal tout le temps dans ça.
Oui, encore.
J'ai adopté les Clairefontaines aussi.
Ah oui.
C'est un ou l'autre. Là.
Les plumes ou pas?
Non, pas les plumes. Ah, oh, wow, vous êtes chanceuse. Vous en avez une?
Oui, toujours des plumes.
Ah, je suis jalouse. Mais donc c'est
mais
ça.
Mais cette plume-là était faite d'une encre noire quand même.
Oui, oui, oui. Ben c'est il y avait l'obligation, quand on fait un mémoire de maîtrise comme ça, de déposer aussi ce qu'ils appellent l'appareil réflexif là, à l'UQAM.
Ouais.
Donc, une centaine de pages sur une dimension dans l'exploration de la création littéraire.
Ça, c'est le début de votre écriture.
Ouais, c'est ça. Alors, j'explique comment j'en suis venue à l'écriture, finalement. Ouais. Mais l'écriture est venue de la douleur. Hein. Ça, c'est important de le dire. Il y en a qui peuvent écrire dans la joie. Moi...
Alors, les mots qui soignent les mots.
Ouais, c'est ça. Tout à fait, c'est bien dit. Ouais, c'est comme ça. Je pense que ce que j'explique là-dedans, c'est qu'il faut avoir souffert, selon moi. Mais ça, c'est vraiment ma pensée à moi.
C'est
ça peut être contesté.
Oui,
mais ça parce que c'est contesté. Mais selon moi, il faut avoir souffert pour pouvoir écrire. Hmm. Et là, je fais vraiment... attention, je pèse mes mots... Parce que je crois que quand on est en période de souffrance, on ne peut pas écrire. Ouais. Quand j'étais alitée à regarder mon plafond jusqu'à à compter les cracks, le nombre de grains de poussière qu'il y avait, je n'étais pas en mesure d'écrire, c'est certain. Mm. Mais maintenant, quand j'écris, c'est certain que je vais puiser dans mes zones d'ombre et que j'y retourne chaque fois.
Est-ce que c'est parce qu'elles sont plus puissantes?
Oui, moi, je pense que j'écris à partir de mes zones d'ombre. J'écris des ténèbres. Mm. Et c'est de là que je peux émerger dans la lumière seulement. Mm. Donc, si je ne vais pas visiter mes ténèbres, je ne peux pas me rappeler ce que c'est la souffrance. Donc, j'ai du mal à devenir lumière puis à être complètement heureuse. Il faut que je me souvienne d'où je viens. Et ça, je ne viens pas d'une zone si lumineuse que ça, pour toutes sortes de raisons.
Vous l'avouez dans ce mémoire, d'ailleurs, qui s'appelle « La seconde chance de l'écriture ».
Oui, c'est ça.
À 14 ans, comme à 24, d'ailleurs, vous avez... vécu la dépression, une dépression majeure, et vous ne voulez absolument pas retourner dans ces zones-là.
Ah non.
Vous travaillez fort dans la vie, comment ça s'est vécu, ces deux épisodes-là de votre vie?
Donc, à 14 ans et à 24 ans, j'ai eu très peur à 34 ans, mais je suis passée au travers, finalement, parce que c'était comme...
4-4 tout le temps
4-4, 10 ans, 10 ans, puis 4-4, oui, c'est ça. Faut vraiment faire attention, faut être prudent. Deux épisodes donc qui ont été bien différents, vécus de manière différente donc à l'adolescence puis à l'âge adulte. Quand j'habitais chez mes parents, quand j'étais seule en appartement, avec tout ce que ça implique, quand on est chez nos parents, on a une forme d'encadrement, mais plus tard, on peut se laisser aller dans la déchéance et la débauche. Ouais. Je suis passée par là aussi.
On est plusieurs en liste.
Et c'est toujours un souci de performance, le perfectionnisme extrême.
C'est vrai qu'on voit ça chez vous.
Hein. Oh, ouais, quand
vous
même.
Êtes toujours incroyablement bien mise en toutes circonstances.
Allô?
Non, ben, oui, ouais, mais bon. Je vous ai vu faire plusieurs types de présentations. Puis on vous sent bien travailler. Est-ce que... c'était l'angoisse de performance, l'angoisse de faire quelque chose?
Oui, il y a toujours une petite angoisse de performance. De moins en moins, par exemple. Je vous dirais que je laisse de plus en plus aller le côté un peu plus botchy.
Quand
que
on devient mère de famille, des fois, on laisse plus aller.
Vraiment, là, je me...
Une chance, hein,
C'est vrai que ça nous ramène.
ça nous ramène, ça nous décentre de notre nombril de venir mère. Si vous savez, moi, je pense que devenir mère m'a sauvé la vie, en partie, parce que je ne suis plus concentrée autour de mon nombril, à me le gratter puis à le regarder. Ça nous sauve d'une forme de narcissisme aussi, ou d'amour propre puis de flattage de poils.
Parce que vous pouviez avoir beaucoup d'attention, mais là, vous êtes obligé d'organiser votre vie en fonction de vos enfants.
Tout est pour eux. Ma vie, c'est eux. Puis à un moment donné, ça reviendra vers moi parce que moi, je suis toujours très intense. À un moment donné, je remettrai mes énergies un peu plus sur moi quand je serai une dame âgée. Mais pour l'instant, je veux dire, mes enfants, c'est eux qui... ils ont tout le meilleur et parfois, malheureusement, le pire de moi. Oui.
Donc, Claudia Larochelle, femme qui illumine l'écran, sûr qui a souvent le nez plongé dans les livres. vous pensez peut-être que les livres peuvent guérir, on entend tout ça.
Ah oui?
Un peu plus tard dans l'émission, d'ailleurs, on va se poser la question de cette possibilité de guérir grâce à la littérature. Et on rencontre aussi, dans peu de temps... notre ami sexologue, parce que au-delà de ça, dans l'intimité, il n'y a pas juste l'écriture, il y a toute la sexualité humaine.
C'est bien important.
Oh oui! Mais ça, on est tous d'accord à l'issue.
Ah oui, tout à fait.
Nous sommes avec Claudia Larochelle et on invite aujourd'hui Sonia Boucher, qui est une sexologue critique et heureuse, qui va nous aider à comprendre quelques étapes de la vie, notamment celle après l'accouchement. Du point de vue de la sexualité, évidemment, comment ça se passe. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Claudia Larochelle? On peut aller là dans nos discussions?
Ah oui, oui, la sexualité après l'accouchement, j'y crois pas, mais on peut aller là.
Moi, je trouve que c'est un bon point de départ.
Sonia Boucher. C'est difficile, mais je pense qu'elle est d'accord, la dame, avec nous. Bon. C'est difficile.
Alors, Sonia Boucher, c'est difficile. Racontez-nous.
Effectivement, on va commencer par ça. C'est une bonne entrée en matière. Est-ce que c'est un mythe, la sexualité après l'accouchement?
Mm-hmm. Bonne question.
Donc, il y a beaucoup de mythes qui entourent la sexualité après l'accouchement. Déjà, on s'attend à une baisse de désir, un éloignement, à plusieurs semaines d'abstinence. Mais il faut faire attention avec ça parce que cette appréhension-là, c'est le pire ennemi. Effectivement, du retour à une sexualité après l'accouchement. Ah ouais. C'est-à-dire que déjà, le fait de l'appréhender, d'en avoir peur, ça va repousser, effectivement, la reprise d'une vie sexuelle entre les deux partenaires.
Mmh. Puis, en fait, est-ce qu'on doit s'attendre, comme dans toutes sortes de situations de notre vie où notre santé évolue, ou nos périodes, notre santé évolue, est-ce qu'on doit accepter que c'est différent, la sexualité? Est-ce que c'est différent?
C'est différent, mais en fait, il y a plusieurs facteurs qui vont influencer ce retour-là à la sexualité. Là, c'est une réponse un peu plus longue parce qu'il y a trois volets. Mm-hmm. Il y a trois types de facteurs différents. Biologiques, psychologiques et sociaux.
Mm-hmm.
Les facteurs sociaux sont importants parce que déjà, ils installent une construction sociale de la femme, mm-hmm, qui va nous donner une vision plus binaire. Donc, soit la pute ou la madone, sûrement vous avez déjà entendu parler de ça. Oui, donc, oui. Ça va placer la femme dans une situation où elle doit soit être maman, soit maîtresse.
Mm-hmm. Puis comment être femme seulement, donc, dans ces conditions?
Oui, absolument. Et ça va quand même aussi influencer la vision de l'homme.
Mm-hmm.
Donc, il va pouvoir influencer, finalement, le niveau de désir de l'un ou de l'autre.
Mm.
Donc, ça, il y a toute la place de l'image corporelle au point de vue social aussi.
Oui, c'est difficile parce que, qu'on le veuille ou non, il y a des grands changements physiques après un accouchement.
Oui. Se réapproprier un corps qu'on n'avait pas, finalement, qu'on redécouvre notre corps après, un nouveau corps qui après 9 mois, qui n'est plus pareil.
Oui, absolument. Donc là, on entre dans les facteurs biologiques et dépendamment du type d'accouchement aussi.
Oui.
Par voie naturelle, par césarienne, est-ce qu'il y a eu des complications? Et là, il y a toute la de la fatigue, du niveau d'énergie, mm-hmm, des douleurs aussi auxquelles on ne s'attend pas toujours à subir suite à un accouchement. Donc, on se dit, bon, le plus dur, c'est l'accouchement. Après, ça devrait bien aller, mais des fois, il y a des douleurs qui persistent.
Mm-hmm.
Et il y a tout l'aspect affectif. Donc, si la venue
ça,
de
c'est important.
Oui, absolument, parce que parfois, la venue de l'enfant va provoquer une absence d'un partage d'affection entre les deux partenaires.
Mmh. Puisque tout le monde va aller vers le nouveau bébé, quoi.
Oui, surtout la mère, hein, surtout la mère. C'est parce que c'est comme si le bébé vient... Parce que je parle pour moi, moi j'ai un petit garçon là, qui a 15 mois et je suis tellement folle de lui. C'est comme si tout mon amour, j'ai plus besoin d'avoir de désir pour rien d'autre que lui.
Ouais.
Tout est canalisé sur lui, toute mon énergie socio-affective, donc... On dirait qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de place pour autre chose ailleurs.
Ouais.
C'est fou quand même, ça.
Ben, je comprends tout à fait.
J'allais encore, puis...
J'aurais pas dû prendre autant de place dans une chronique sur post-accouchement, mais j'ai quand même une fille de 14 ans. Et j'ai vécu la même chose comme une mère.
On est tous,
Moi, ma fille, c'était la fin du monde. Enfin, mais...
Absolument, absolument. Oui. Et je pense que vous n'êtes pas les seuls, en fait.
Oui.
Je devrais pas parler de moi, mais c'est le même cas pour moi aussi. Donc, le bébé prenait toute la place comme un trésor à protéger et à chérir.
Ouais.
Mais il faut pas oublier, évidemment, le partenaire là-dedans. Ce qui m'amène à l'autre aspect des facteurs psychologiques, finalement, qui peuvent avoir un impact, c'est-à-dire les connaissances qu'on a sur la grossesse et sur la suite.
Mm-hmm.
L'image qu'on s'en fait versus la réalité. Parfois différentes. C'est la même chose qu'on ait une maternité choisie ou non.
Ah oui, oui.
Ça va avoir un impact important. Et bien sûr, tous les problèmes de santé mentale. Un peu plus tôt, je pense, en deux entrevues, on parlait des possibilités d'une dépression postpartum.
Oui.
Mais ça en fait partie aussi. Mais donc, est-ce qu'une personne atteinte de dépression sévère va être apte à avoir une sexualité? C'est possible, mais il faut comprendre qu'elle va être différente.
Oui.
Donc, bien sûr, il y a toute la qualité de la relation amoureuse et des rapports sexuels avant l'accouchement qu'il ne faut pas oublier. Mm-hmm. Donc, l'avenue d'un enfant, ça ne règle pas tout. Et si les rapports sexuels avant étaient très axés sur l'apparence corporelle, évidemment, il va avoir un impact après. Mmh.
Pour vrai, nos rapports sexuels peuvent être beaucoup teintés par le regard qu'on a sur l'autre, vous trouvez?
Ben, dépendamment des personnes, mais si c'est le cas, effectivement, ça va causer problème après. Mmh.
Parce que si la femme se sent moins belle ou moins désirable parce que, bon, son corps s'est transformé, c'est pas dire qu'il est pas beau, mais il s'est transformé, c'est sûr que ça, ça fait la différence dans le couple. Là, si elle se sent diminuée parce qu'elle est plus elle-même, ben, elle va peut-être moins avoir moins envie d'y aller, quoi.
Oui, absolument.
Mais concrètement, non plus, aussi, il faut le dire, le passage d'un enfant par voie naturelle, je veux dire, ça...
Ça change, je veux dire, ça déchire,
on va le dire, le mot, oui. Là, ça déchire un sexe. Alors ouais. Après, c'est pas évident là, de se réapproprier la zone. Là.
Ouais.
Non, mais on
sait ça. Il va y avoir un changement des organes génitaux de la femme,
mais
ça fait partie de tout l'aspect psychologique, c'est-à-dire de prendre connaissance de ça avant l'accouchement. Mm-hmm. Donc, pas se dire, c'est quelques heures, quelques jours, après ça va être correct, ou même d'appréhender, comme je disais un petit peu plus tôt, que le corps va être démoli. Mm-hmm. Non, c'est pas ça non plus. Pour certaines femmes, il y a très peu de différence même, tandis que pour d'autres, il y en a beaucoup. Mm-hmm. Donc, l'important, c'est vraiment d'actualiser notre sexualité au moment où on la vit.
Ouais.
C'est-à-dire que ce ne sera pas la même qu'on ait un enfant ou non aujourd'hui et dans 2 ans ou il y a 3 mois.
Mm-hmm.
Donc, c'est important de s'actualiser en fonction de ce qu'on vit au moment présent.
Et c'est souvent votre mot d'ordre, Sonia Boucher, vous invitez à ce qu'on écoute, on entende comment les choses évoluent au-delà des idées préconçues de la performance, par exemple.
Oui, absolument. Donc, à quoi s'attendre? Comment s'en sortir? Finalement, c'est de prendre conscience des obstacles pour chacun des partenaires et des éléments facilitants.
Ouais.
Qu'est-ce qui va être facilitant pour un et pour l'autre et qu'est-ce qui en est un obstacle? Comme je le dis souvent quand on travaille ensemble, Benoît, c'est d'ouvrir le dialogue, d'en parler, de le nommer finalement.
Mais aussi se donner du temps, j'imagine que c'est la notion du temps, c'est très important dans la sexualité après l'accouchement.
La notion de temps est très importante, mais c'est aussi un risque. Je m'explique, c'est-à-dire que le risque, c'est de tout mettre la pression sur la disponibilité de la femme.
Voilà, oui.
Ça revient un peu au concept de charge mentale. Donc, le conjoint va dire, c'est parfait, on va attendre quand on va être prête. Et la femme va répondre, je vais être prête quand il va comprendre.
Ça
fait pas des enfants forts.
Ça fait pas d'autres enfants forts, mais surtout, ça commande de l'écoute, comme d'habitude. Merci beaucoup, Sonia Boucher, sexologue à domicile.
C'est un très grand plaisir, Benoît. Merci beaucoup. Merci à tout le monde.
Merci.
Bonne journée.
Stéthoscope.
Il y a l'écriture automatique, proposée entre autres par les psychanalystes. Il y a aussi l'écriture qui libère, semble-t-il, comme chez certains auteurs qui ont choisi l'autofiction pour s'exprimer. On pense ici entre autres à Maxime Olivier Moutier, auteur de Marie-Hélène au mois de mars, qui a écrit alors qu'il était interné en psychiatrie et sur son difficile deuil amoureux. Il y a même l'écriture de tous les jours que l'on vit maintenant grâce aux réseaux sociaux, une écriture, disons, qui vide le sac, qui apporte même parfois du réconfort parce qu'on ne se sent pas trop seul. Enfin, peut-être que vous comprenez là où on va. On explore aujourd'hui une idée au stéthoscope. Est-ce que l'écriture fait du bien? Une étude récente, dont les résultats sont parus dans la Revue canadienne des soins infirmiers en oncologie, relate l'expérience positive qu'ont vécu des femmes survivantes du cancer. En effet, ces femmes ont participé à un atelier d'écriture communautaire et on a compris les bienfaits à partir d'enregistrements des ateliers et de regroupements de leur carnet d'écriture. On a appris, entre autres, que, évidemment, même si survivre au cancer n'est pas simple, on peut, grâce à ces ateliers, grâce à cette écriture, retrouver un endroit rassurant pour se confier, se donner aussi le droit de penser à soi, surmonter aussi ses craintes et combattre l'incertitude.
Au Québec, la boîte à lettres, un organisme communautaire qui intervient avec des jeunes de 16 à 25 ans sous-scolarisés, a mis à l'épreuve depuis les années 80 une nouvelle approche, en fait une approche récente, disons, l'approche autobiographique. On peut lire sur leur site web, dans cet atelier, les jeunes écrivent leur récit de vie en lien avec la lecture et l'écriture. Ils se questionnent sur les éléments de leur parcours de vie et de leur parcours scolaire qui ont été aidants et bloquants dans la construction de leur rapport à l'écrit et dans leur appropriation de la lecture et de l'écriture. Vous comprenez bien qu'à ce moment-ci, on parle d'analphabétisme. On essaie de retourner dans son récit pour peut-être combattre l'analphabétisme. Toujours selon l'organisme, les bienfaits précis de ce récit ou de cette expérience de récit autobiographique leur permettent non seulement de comprendre, de voir les difficultés, d'améliorer leur lecture, leur écriture, mais aussi de trouver des moyens concrets pour transformer leur rapport à la lecture et l'écriture et même être mieux outillés pour réaliser leurs projets futurs. En somme, on peut se libérer par l'écriture, selon certains auteurs, même on pourrait penser à Marie-Cécile Labrèche qui en fait souvent l'expérience, on peut se retrouver, prendre soin de soi, ou même améliorer son rapport au monde des mots au point de reprendre un peu de pouvoir. Évidemment, c'est récent qu'on puisse être autant de gens qui écrivent dans l'histoire. Au 19e siècle, celui qui a commis tant de romans pour mettre en lumière du monde souvent dans l'ombre, Émile Zola, écrivait qu'il aurait voulu aplatir le monde d'un coup de sa plume en forgeant des fictions utiles. Enfin, les récits qui changent le monde, ben, ça c'est une autre histoire.
Thank you.
C'est bon pour la santé, un magazine animé par Sophie Stanquet et Benoît Rassette.
Alors maintenant, on a vu avec Claudia Larochelle qu'elle a changé complètement sa façon de manger. Elle a même avoué que, bon, c'était le fast-food qu'elle aimait et que depuis qu'elle a eu ses enfants, il y a une prise de conscience. Elle mange bien, elle prend du temps pour elle. Et dans manger bien, il faut dire aussi qu'il y a des vitamines qu'il faut, qui nous aident à passer à travers. Alors nous avons notre chroniqueur David Savard, il est naturopathe. Bonjour,
Bonjour.
Ça va bien?
Oui.
Oui. Alors, Claudia nous disait en début d'émission qu'elle avait, elle avait un rhume depuis 3 semaines. Puis ça durait, puis ça durait, puis ça durait. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre pour prévenir et pendant qu'on l'a, cette grippe ou ce rhume?
Très intéressant. Il y a plusieurs choses à ça. La première chose, c'est pour prévenir, si on commence à ça par rapport au rhume, c'est de s'assurer d'avoir un système immunitaire qui est très, qui est fort, qui est capable de combattre qu'est-ce qui est infection, virus ou peu importe quoi. Comment s'assurer pour ça? C'est de s'assurer d'avoir une flore intestinale qui est très bien diversifiée au niveau des bactéries, des bonnes bactéries, des mauvaises bactéries, première chose. Et aussi de bien s'alimenter, d'avoir une alimentation qui est riche en vitamines, en minéraux, tout ça, en antioxydants aussi beaucoup, pour prévenir. L'échinacée, c'est un produit naturel qui peut aider aussi pour ça, pour prévenir.
Prévenir, oui.
Pour prévenir.
Pendant aussi, pendant on en prend ou pas? Quand on est remis, est-ce qu'elle pourrait en prendre?
On pourrait en prendre, sauf que les études disent que ça aide pas nécessairement à traiter le rhume ou à l'enrayer très rapidement. L'huile d'origan aide beaucoup pour ça.
Et est-ce que la vitamine C, la fameuse vitamine C qu'on dit 500 ou 1000 par jour, est-ce que c'est utile pour éloigner les rhumes et les grippes?
Oui, c'est très utile en prévention et même pendant. Normalement, ce que je recommande, c'est une bonne source de vitamine C. Ça marche très bien aussi. Vitamine D, vitamine E, très bons antioxydants aussi qui peuvent aider.
L'huile d'origan, ça m'intrigue, l'huile d'origan. C'est quoi?
L'huile d'origan, c'est une huile essentielle, tout simplement, qu'on prend. On peut prendre par prise orale, quand même. Il faut faire attention quand même, consulter un naturopathe avant de faire ça, ou sinon par inhalation. L'huile d'origan, ça a des propriétés antiparasitaires, anticandidose. Il y a beaucoup de bonnes propriétés à l'huile d'origan. Et principalement au niveau du rhume et de la grippe, ça peut aider beaucoup.
Je pourrais aller me chercher ça, là.
Oui,
mais avec de l'aide, hein,
avec de l'aide.
J'ai l'impression que c'est pas comme la vitamine C, c'est-à-dire qu'il faut quand même avoir un conseiller qui puisse dire la dose, c'est ça?
La dose surtout, parce que l'huile d'origan, c'est très, ça peut vraiment brûler au niveau parois, au niveau du
l'œsophage.
C'est très fort. Si on en prend trop.
Alors, il faut dire aux auditeurs, auditrices qui écoutent l'émission, s'ils ont envie d'en prendre, il faut vraiment avoir quelqu'un pour vérifier. Parce que j'en ai déjà pris, je savais que c'était fort.
C'est très fort,
Il faut vraiment avoir quelqu'un qui nous recommande ça.
Exactement.
Alors, pendant qu'on a le virus, comme là, moi, en pleine crise, je prends ça puis ça va me requinquer?
Ça va stimuler le système immunitaire. Donc, ça va aider justement à passer plus rapidement au travers du rhume ou d'une grippe.
On m'a dit que ça tuait les bactéries. Est-ce que c'est vrai?
Oui, c'est ça. Ça va tuer les mauvaises bactéries. Ça aide vraiment au niveau, comme je disais, au niveau candida, si le monde connaît ça un peu, parasites, infections, etc.
Très intéressant. Ça tue les bibites, comme on dit.
Les bibites, exactement.
au niveau de l'humeur, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, Claudia nous a parlé de ces épisodes de dépression. Et puis, il y a des gens qui écoutent, et puis qui, surtout là, au mois de février, les statistiques, il n'y a pas de lumière. Je veux dire, là, ça commence à 5 heures, le soleil, là, à se coucher. Mais c'est extrêmement difficile. Donc, il y a soit des dépressions sévères, il y a quand même une petite déprime, un parfum de déprime dans ce mois-ci. Est-ce qu'il y a des vitamines ou des suppléments d'aliments naturels au niveau de la dépression qu'on pourrait prendre?
Oui, c'est une super bonne question. Il y en a vraiment beaucoup qu'on peut considérer prendre. Le premier, selon moi, c'est vraiment la vitamine D. La vitamine D, c'est, selon les dernières études, c'est une vitamine que environ 70 % des Nord-Américains seraient déficients en vitamine D. Donc, c'est une vitamine qui joue beaucoup sur l'humeur, sur le système immunitaire.
Ah, OK.
Ouais. Donc, la première chose à regarder. Donc,
au niveau de l'humeur, prendre vitamine D, ça aide? Comment ça fonctionne en pilule?
Ça peut se prendre en pilule ou en goutte, simplement. Donc, c'est prise orale.
Mm-hmm.
Normalement, on recommande tout dépendant, allez voir votre naturopathe pour recommander une dose. Minimalement, normalement, c'est 1000 unités internationales par jour qui est recommandée pour la période d'hiver surtout.
Ça, c'est pour nous donner un peu de soleil, quoi.
Oui, exactement. Bon, on l'appelle un peu la vitamine soleil, justement, à cause qu'une exposition au soleil est moins grande pendant l'hiver.
Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'on peut prendre pour améliorer notre humeur, notre état dépressif en février ou peu importe le moment?
Oui, plusieurs choses. Numéro un, les oméga-3. Les oméga-3 ont un effet anti-inflammatoire. Donc, en baissant l'inflammation, on va réussir à produire un petit peu plus de sérotonine, qui est l'hormone de la bonne humeur. Donc, ça va créer un effet très, très positif au niveau de la santé en général. Aussi, au niveau des plantes adaptogènes, on peut utiliser du ginseng, du maca, on peut utiliser du cordyceps aussi, qui est des plantes aussi adaptogènes. Consulter un naturopathe avant d'utiliser ça, mais c'est très stimulant au niveau de l'énergie. Donc, ça peut aider aussi au niveau de la dépression.
Donc, pour nous donner de l'énergie, quoi, finalement.
Donner de l'énergie, oui, exactement. Puis, d'amuser aussi beaucoup sur le sommeil. Très important d'aller chercher son 7 à 9 heures de sommeil.
Parce que moins on dort et plus on a un état dépressif. Hein?
Exactement. Pour beaucoup de monde, oui.
Oui, parce que c'est un peu comme un bébé, là. S'il ne dort pas assez, il va se mettre à pleurer.
Exactement.
Et puis on ne saura pas pourquoi. au niveau de l'allaitement, on en a parlé tout à l'heure. On va en parler pendant l'émission. Qu'est-ce qu'il faut prendre? Est-ce qu'il faut prendre des suppléments quand on sait qu'on veut allaiter notre enfant?
Oui, quand on sait qu'on veut allaiter notre enfant, qu'est-ce qui est important de prendre, c'est une multivitamine avec des minéraux, des antioxydants, une bonne source de probiotiques, des oméga-3. C'est considéré comme très, très, très sécuritaire. Aussi, pour aider pour l'allaitement aussi, pour stimuler la production de lait, on peut recommander aussi le fenugrec et principalement le fenugrec et le chardon béni, qu'on appelle. Donc ça aide aussi beaucoup au niveau de la production.
Qu'est-ce que c'est au juste?
C'est deux plantes
qui
aident à stimuler la production de lait.
Ah, parfait! Ouais, et puis, les bienfaits, il y a aussi le complexe B?
Le complexe B, oui. La levure de bière, les complexes B, aident aussi à stimuler la production.
Donc, évidemment, il faut faire attention à ce qu'on mange. C'est important pour l'allaitement. Est-ce qu'on doit prendre plus de fer quand on sait qu'on doit allaiter?
Tout dépendant, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des tendances à avoir une déficience en fer pendant l'allaitement. Donc, oui, c'est bon d'en prendre, mais pas en trop grosse quantité parce que ça peut devenir toxique. Mais c'est très bon d'en prendre, oui.
Mais est-ce que c'est mieux d'en prendre dans l'alimentation ou prendre des suppléments de fer?
Dans l'alimentation, ouais, c'est mieux.
Vous trouvez que c'est pas très bien d'en prendre en plus en vitamine, quoi?
En vitamine, ça peut être bon aussi, mais je pense que qu'est-ce qui est vraiment important, c'est d'aller voir son médecin pour voir nos niveaux de fer principalement, de le faire vraiment mesurer pour être sûr de prendre une bonne dose de fer et de pas se ramasser avec des doses qui sont trop grandes.
Est-ce qu'on peut en voir plus de fer, c'est-à-dire est-ce qu'on peut être malade parce qu'on a trop de fer?
Oui, on peut être malade.
Ah oui?
Ouais, c'est vraiment pas bon.
J'en ai déjà pris trop, moi, de supplément de fer.
Et qu'est-ce que ça fait comme effet secondaire, justement, pour les gens qui ne savent pas qu'ils ont plus de fer?
Ben, ça cause une toxicité principalement au niveau du système. Donc, on peut assister à une baisse d'énergie. On peut assister avec un système immunitaire aussi qui va être un petit peu plus affaibli aussi à long terme. Ça fait comme l'effet inverse parce que le fer, c'est principalement son travail, c'est de transporter l'oxygène. Et... si on en a trop, ça va faire l'effet inverse.
Donc, ça va un peu comme avec le sucre, finalement. Si on en prend trop, après, on est hot, aïe. Et après ça, on est complètement à plat une heure plus tard. C'est ça? Ça fait un petit peu ça avec le fer?
Ça peut faire ça aussi, oui. Un petit peu différent du fer, du sucre, principalement. Le sucre, c'est principalement au niveau... ça baisse l'énergie quand même assez rapidement au niveau de la glycémie. Mm-hmm. Le fer, ça n'a pas un gros effet au niveau de la glycémie à court terme directement. Mais oui, c'est... toxique.
C'est un petit peu toxique. Merci beaucoup, David Savard, notre naturopathe. I need soothing.
God is brooding. Drawn in chalk across the floor, you made it yours, your private door to my room. Change of course, a strange discord resolve. I need soothing. My lips aren't moving. My God is bruised.
C'est aussi bon pour votre santé. Dites-nous en plus sur Facebook en visitant la page Canal M, la radio de Vuzévoix, ou en repérant @canal_M sur Twitter.
Alors maintenant, on sait très bien qu'après l'accouchement, c'est difficile. On a parlé de sexualité, mais aussi on a envie, les femmes, de se retrouver, de mettre du maquillage. On n'a plus de temps, on n'a plus le temps qu'on avait pour se maquiller. Parce qu'il doit y avoir des petits trucs pour ça. Alors on va parler avec Chantal Goyette, chroniqueuse monde des cosmétiques. Chantal Goyette, bonjour.
Bonjour.
Alors, je disais justement que c'est difficile suite à un accouchement. On se sent un petit peu perdu. On ne sait plus quel produit prendre pour notre peau. Notre peau, elle a changé d'ailleurs. Elle n'a plus la même couleur. Parfois, elle est plus rosée parce que, bon, après l'accouchement, il y a plusieurs choses qui changent. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a des petits trucs après l'accouchement pour se retrouver belle et trouver une belle peau
pour retrouver notre beauté, oui, oui, absolument. Donc, mais tout d'abord, je pense qu'il faut penser à retrouver l'éclat de notre peau.
Oui.
Donc, moi, j'ai deux produits là vraiment qu'il faut faire toujours, c'est un exfoliant. Parce que surtout qu'on fait un exfoliant, on enlève nos peaux mortes, on enlève ce qui nous rend le teint terne. Mm-hmm. Et un petit truc pour les mamans qui viennent d'accoucher, c'est prendre un exfoliant sans particules, c'est-à-dire au AHA.
Okay.
Donc, ce qui est fantastique avec les AHA, c'est qu'on n'est pas obligé de l'appliquer, de rouler, de faire des manœuvres. Donc, on l'applique, on attend 10 minutes et littéralement, ça nous fait une peau neuve, ça lisse les rides et surtout, ça agit au niveau des petites taches brunes.
Ah,
besoin après un accouchement.
Et puis, c'est vrai, comme je disais, qu'on a une peau rosée après, parce que bon, il y a tout un débalancement hormonal. Donc, j'imagine qu'en faisant un petit traitement avec cette crème-là, on retrouve une peau plus blanche.
Plus lisse.
Plus lumineuse.
Plus lisse,
oui, puis on retrouve notre teint à nous. Par la suite, on peut se faire un petit activateur de beauté avec un masque pour quand même redonner une hydratation parce que notre exfoliant va enlever nos peaux mortes, mais là, il faut hydrater aussi. Uh-huh. Donc, moi, je recommande mes petits masques gel. Vous savez, ces masques-là qu'on dépose sur la peau. Donc, on dépose sur la peau, on fait un petit dodo en même temps que bébé, 20-30 minutes, et on l'enlève automatiquement. Donc, ça va aller nourrir en profondeur, donner une hydratation, redonner l'éclat, ça lisse nos petites rides de ridules, ça enlève nos petites traces de fatigue aussi. Fait que moi, je commencerais toujours avec ces deux produits-là. Naturellement, on néglige pas notre crème de jour, notre crème de nuit, nos crèmes contour des yeux. Mm-hmm. Mais ces produits-là vont aller stabiliser, vont aller redonner l'éclat à notre peau.
Si on a peu de temps, puis on oublie justement notre crème de nuit parce qu'on pense au bébé, puis on, je veux dire, la crème de nuit, tout ça, quelle est la crème la plus importante qu'on ne doit pas négliger si on a peu de temps pour prendre toutes les crèmes là, que vous nous recommandez?
Oui, moi, je me prendrais une petite crème 2 en 1. Vous avez la crème confort de Ovimar, qui est une crème pour les peaux sensibles que vous pouvez mettre matin et soir.
Bon.
Donc, allez-y avec une crème qui combine l'application du jour et soir. Parce qu'honnêtement, le truc, c'est de mettre notre crème régulièrement. Donc, moi, j'irai avec une crème 2 en 1, tout simplement.
Alors, on sait ce qu'à faire. Maintenant, au niveau du maquillage, comment on peut se maquiller en 5 minutes et que ça mette nos traits en valeur? Moi, je dis le 5 minutes parce que c'est ça. C'est ce qu'on a quand on vient maman. On a peu de temps. Il nous reste 5 minutes pour nous maquiller. Alors, c'est quoi les trucs?
C'est très bien dit, Sophie. On a seulement 5 minutes. Donc, moi, je commencerai avec une petite crème teintée. Vous savez, les petites crèmes hydratantes teintées. Moi, j'ai un petit parti pris pour la crème GG de Gernetti, qui est vraiment une crème qui est entre le soin et le maquillage, qui est vraiment la fusion entre les deux. Et cette crème-là contient des micro-sphères à effet soft focus. C'est quoi ces microsphères-là? C'est tout simplement ces microsphères-là qui sont dans la crème permettent à la lumière artificielle de réfléchir sur notre peau. Donc, ça nous donne un petit effet lifting sans chirurgie. Donc, ça nous donne de l'éclat. En plus, à l'intérieur, vous avez des petites micro-particules de pigments qui sont libérées tout simplement à l'application au contact de la peau. Donc, cette crème-là va hydrater, va nourrir, mais en plus donne du teint. Donc, on applique ça au doigt, pas besoin d'éponge, pas besoin de pinceau à fond de teint. On applique ça au doigt. Sincèrement, ça prend 1 minute et demie de mettre cette crème-là. Mm-hmm. Par la suite, on met un anti-cerne parce que naturellement, on dort moins, donc nos cernes sont présents. Mm-hmm. Le petit truc, il faut se trouver un petit anti-cerne avec une couleur un peu orangée.
Ah oui?
Parce que le orangé est la couleur
complémentaire. Ça va couper le rose ou quoi, l'orangé?
Le bleu.
Ah,
okay. Parce que nos cernes sont dues à une petite veine bleutée qu'on retrouve au coin interne de l'œil. Et quand on est fatigué, mais cette veine-là prend un petit peu plus de force, donc ça devient un petit peu plus bleuté. Donc, vous prenez une anti-cerne avec un sous-ton orangé, appliquez directement sur la veine bleutée, et je vous le dis, c'est miraculeux, ça disparaît. Alors... Moi, j'aime bien les anti-cernes en crayon parce que c'est plus précis, c'est plus vite à appliquer. On n'a pas les doigts tout tachés d'anti-cernes. J'en ai un que je pense, le crayon Sergio Alvarez, SLA, qui est très bon là-dessus.
Alors, crayon plus que crème, finalement, en dessous des yeux pour l'anti-cerne.
Mais c'est plus facile, okay. C'est plus vite, c'est plus précis. Par la suite, on met un petit mascara. Très léger, hein, sur les cils supérieurs. Et je terminerai juste avec un petit baume à lèvres. Je pense pas que c'est le temps de se mettre un rouge à lèvres ou un gloss pigmenté quand on a un bébé. Pourquoi? Parce qu'on veut juste donner des petits bisous. Donc, allez-y.
On veut pas laisser de traces. Hein. On veut pas montrer qu'on est trop maternel.
On veut pas.
Alors, un petit gloss finalement pour les lèvres. Mais je veux revenir sur le mascara. Pourquoi en haut et pas en bas?
Parce qu'en bas, on a nos petits cernes. Ben, j'espère qu'on n'en a pas, mais souvent quand on vient d'accoucher, on a la paupière inférieure un petit peu plus gonflée.
Ah.
Donc, si on met du mascara, ben, ça va, tous nos petits pois, chacun de nos cils agit comme une flèche. Donc, si chacun de ces flèches-là, si on peut dire, pointe nos petites poches en dessous des yeux, ben, ça ne va pas du tout. Donc, on va mettre le mascara seulement en haut. Ça va diriger notre regard vers le haut. Ça va ouvrir nos yeux. Donc, on n'aura plus aucune attention sur nos cernes.
Alors, la maman manque un peu de temps, c'est sûr. Est-ce qu'on peut trouver ces produits en ligne? Parce que ça aussi, là, on n'a plus le temps à les magasiner. puis c'est belle
pratique. Quoi qu'on voit souvent, je suis obligée de le dire. Ah, il ne fallait pas dire ça!
Mais c'est pratique d'avoir le bébé dans les mains et puis d'aller aller sur notre écran pour voir si... Est-ce que ces produits-là, on les trouve facilement en ligne?
Exactement. J'ai choisi des produits, j'ai fait mes recherches en m'assurant que tous ces produits-là se trouvaient en ligne. Donc oui, avec bébé dans les bras, on peut faire nos achats et ça cogne à porte, nos produits arrivent gentiment. On n'a pas besoin de sortir, habiller bébé, tout ça. Donc tous ces produits-là se retrouvent en ligne, soit sur le site des fabricants, où vous avez aussi la compagnie Glam Cosmétiques qui a vraiment beaucoup de produits qui se retrouvent en ligne.
Merci beaucoup, Chantal Goyette. Au plaisir.
Merci beaucoup. Bonne journée à tous.
Bye bye.
C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse et c'est joli. On dirait le sud. Le temps dure longtemps et la vie sûrement. Un million d'années et toujours en été. Y a plein d'enfants qui se roulent sur la pelouse. Y'a plein de chiens, y'a même un chat, une tortue, des poissons rouges, il ne manque rien. On dirait le sud, le temps dure longtemps. Et la vie sûrement, plus d'un million d'années, et toujours en été. We'll be right back. l'été.
C'est bon pour la santé, un magazine animé par Sophie Stanquet et Benoît Rassette.
Mesdames, Messieurs, nous avons comme invité Claudia La Rochelle aujourd'hui. Vous êtes toujours en compagnie de Benoît Rassette.
Et Sophie Stanquet.
Et on en a parlé pendant l'émission de la dépression après l'accouchement, c'est-à-dire le post-partum. Qu'est-ce que c'est? On appelle communément le baby blues. Finalement, ça arrive, tout dépendamment des femmes, 2 ou 3 jours après l'accouchement. Et certains scientifiques peuvent dire que même après 3 mois, après avoir accouché, ce post-partum peut arriver dans la vie d'une femme. Alors, comment ça se passe? Il y a une tristesse, de la fatigue et une déprime qui envahit la femme qui vient d'accoucher. Et elle est complètement perdue parce qu'elle se dit « mais c'est pas possible, je viens de donner un enfant extraordinaire, de mettre au monde un enfant extraordinaire ». Et moi, je me sens déprimée. Dans certaines études, on a même lu que certaines femmes voulaient même se débarrasser de l'enfant, partir. Il y en a qui sont parties 2 heures après l'accouchement et elles étaient complètement perdues. Ça existe vraiment. Alors, il y a une incapacité, il y a une pression sociale aussi qui se fait parce que vous avez qu'à regarder un petit peu dans les publicités où on voit que la femme a accouché puis elle est physiquement extraordinairement bien faite après. Elle est en forme, elle reprend le travail. Mais dans la vie de tous les jours, là, c'est pas comme ça. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent de ce baby blues après. Et ce qu'il faut faire, je vais vous donner un petit peu les chiffres. On dit qu'après un accouchement, il y a 20% des femmes qui peuvent faire un post-partum. C'est énorme. Et en 10 ans, on est passé de 13,6% à 19,6%. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour soigner ça? Eh bien, il y a 2 façons. Il y a tout simplement de prendre des antidépresseurs ou aller consulter un psychologue pour parler de ce qui se passe, pour parler du pourquoi de ce qui arrive. Est-ce que la personne était fragile avant? Est-ce que c'est la pression sociale? Et puis, il y a l'humain. Discuter avec son conjoint, discuter avec les gens et aussi...
Et ses amis.
Et ses amis. Et souvent, c'est vu par les femmes comme une honte, comme un échec social, comme une honte. Mais non, je peux pas. Je viens d'avoir un bébé, j'ai attendu toute ma vie pour avoir un bébé. Comment ça se fait que je suis déprimée? Comment ça se fait que je pleure? Et comment ça se fait que je veux abandonner mon enfant?
C'est fou, ça.
Alors, ça arrive vraiment. Et, et je dirais, avec les études que j'ai lues en préparant cette émission, qu'il y a beaucoup de pression sociale.
Ah oui, il y a des heures de contrôle.
Beaucoup, beaucoup de pression sociale dans le baby blues qui existe vraiment. Est-ce que vous l'avez eu?
Non, pas du tout. Moi, j'ai pas eu ça. Pourtant, j'avais une fragilité à la base, étant de nature assez dépressive. Mais au contraire, pour moi, ça a été comme l'effet contraire. Ça m'a donné, ça a donné un sens à ma vie, avoir des enfants. Donc, c'est assez exceptionnel. J'ai eu peur les 2 fois. C'est sûr, j'ai tout pour que ça m'arrive. Alors que non, ça m'a rendu moi plus heureuse, au contraire, d'avoir des enfants. Ça m'a, comme je le disais un peu plus tôt, ça m'a ramené aux vraies affaires. Par contre, j'en connais des amis autour de moi qui ont vécu le postpartum solide. Je connais des hommes surtout. Moi.
Voilà, c'est ça.
Moi,
les
c'est les hommes
aussi.
Qui l'ont eu autour.
C'est ça, il y a des hommes, mais ça ne se passe pas de la même façon. C'est-à-dire, est-ce qu'ils veulent abandonner la famille à ce moment-là?
Ah, il y en a qui le font.
Mais moi, je trouve que ça, c'est fréquent. Je regarde juste les familles d'enfants en situation d'handicap parce que, bon, c'est une réalité. Par exemple, les pères, presque toujours, ils partent. Là. Je veux pas exagérer le phénomène, mais devant les difficultés malheureusement, les femmes restent plus.
Suite à l'accouchement, qu'ils partent ou ils partent plus tard?
Je prenais l'exemple d'une famille avec un enfant en situation d'handicap parce que c'est une réalité que je connais.
Oui.
Mais en tout cas, sinon, je pense entre autres au film Le piège d'Issoudun de Michel
Lartaud.
Si on oublie là, les moments théâtrales qui veulent être une symbolisation, puis que c'est trop, là, juste que vie. Ce personnage incarné par Sylvie Drapeau, c'est incroyable.
Ouais. C'est fou, ça.
Et donc, ça existe vraiment. Il faut dire qu'à la base aussi, il y a une espèce de bataille des hormones, l'œstrogène, la progestérone. Je veux dire, ils sont au maximum après l'accouchement.
Ben oui.
Ils sont dans le tapis.
Et alors, imaginez-vous que quand on a nos règles, nous, on est dans le tapis.
Oui,
et quand on entend. Quand on vient d'accoucher, ben là, tout ce monde-là, là, ouais. c'est énorme.
Il y a qu'on dort pas aussi.
On dort pas
non plus. On dort pas. Ça rend fou. Je veux dire, ouais. C'est une technique de torture, empêcher quelqu'un de dormir. Ouais. Moi, c'est ce que j'ai trouvé le plus dur.
Ouais.
Vraiment, de pas dormir.
Alors, ça existe vraiment, cette dépression, et puis ça s'en va en augmentant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pression sociale. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Il faut tout de suite redevenir productif.
Voilà. Ben, il y a des exemples aussi, il y a des gens qui...
C'est incroyable, voilà, cette pression.
Il y a des gens qui disent, ben voilà, moi, je vais retourner au travail. Non, c'est pas vrai. Il faut prendre soin d'accueillir l'enfant, de retrouver son corps, et puis toutes les hormones qui sont en nous, là, ouais. c'est pas encore balancé tout à fait.
Je me rappelle même d'une employeur qui me dit avec un grand sourire, « Wow, t'as eu un beau 5 jours de congé. » Ah, parce que moi, c'était juste l'année avant où le programme de soutien aux familles avait été implanté, donc j'avais droit à rien, sauf 5 jours. Puis là, 5 jours, on m'a dit, « Ouais, t'es chanceux, mais on n'avait juste pas dormi, là. »
Non, c'est ça.
C'est pas ça. Des vacances, là.
Donc,
t'es mis au travail.
Le baby blues aussi, ça englobe tout. Ça englobe retrouver son corps, ça englobe un être nouveau qui arrive. Ça englobe aussi l'allaitement. Est-ce que j'ai été capable d'allaiter ou ça a été un échec? Et c'est encore beaucoup de pression pour la femme qu'on met sur le dos des femmes. Et ça rentre dans ce baby blues parce que dans les récits de femmes que j'ai lus, ils disaient, ben voilà, je suis même pas capable d'allaiter, j'ai même pas assez de lait pour allaiter mon enfant. Et la personne s'en va dans une dépression, s'enfonce parce qu'elle a un sentiment d'échec et de honte.
De culpabilité.
Il n'y a pas de soutien tant que ça non plus pour les femmes quand on accouche. Élever un enfant, ça prend un village, mais le village, on le cherche. Hein, quand on accouche, je vous le dis, là...
Je ne dis pas exactement sur Internet.
C'est pas juste des petits vêtements et des toutous qu'on veut quand on accouche. Non. C'est des petits plats préparés. Moi, mes amis qui sont arrivés chez moi avec des lasagnes, des pâtés chinois, de la bouffe pour ma fille quand j'ai eu mon fils, des plats préparés avec amour.
De l'aide.
C'était... C'est juste ça que ça me prenait.
Mais parce qu'on est d'une société qui est de plus en plus dans son propre monde individuel.
Ouais.
Alors qu'avant, vous aviez un bébé, ça cognait à la porte. Les gens disaient, est-ce que je peux t'aider? Je peux te prendre 2 heures avec...
C'est formidable.
Je vais aller le promener. Mais là, comme on est de plus en plus seul...
Les parents, maintenant, sont tellement occupés.
C'est...
alors, les grands-parents.
Alors, donc, ça existe vraiment. Et bien, il faut demander, évidemment, de l'aide. Et puis, il ne faut pas hésiter à consulter. Même consulter un psychologue, mais consulter quelqu'un qui va vous dire, c'est sûr que la petite pilule, l'antidépresseur va aider dans des cas extrêmes, parce qu'il y a des cas extrêmes aussi. Hein. Il y a des gens qui ne reviennent même pas chercher leur enfant après avoir accouché. Et ça, à ce moment-là, il faut soigner. Mais il faut le prévenir et surtout lire pendant l'accouchement. Il y a des passages de livres que certaines femmes ne décident pas de lire parce que disent, ah non, moi je suis forte, moi. Moi, ça ne va pas m'arriver, là, moi.
Oui.
Et puis elles oublient de lire le passage où on parle du baby blues. Et c'est important de savoir que ça existe et puis il ne faut pas avoir honte.
Il faut en profiter pendant que le petit guide qu'on d'avoir remet ça. Est gratuit.
Voilà.
Oui, ça dure.
Alors, on va parler de tout ça tout de suite après. À l'émission, on reçoit le docteur François Barbel. En compagnie de François Barbel, médecin de famille et stomatologue. Bonjour François.
Bonjour.
Alors
Sophie.
J'aimerais bien que vous réagissiez sur le baby blues un petit peu avant qu'on parle de l'allaitement. Je vous voyais réagir.
Oui.
Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, cette question-là?
Énormément, parce que tout le monde fait un baby blues, pratiquement tout le monde a fait un baby blues quelques jours après l'accouchement. Ça peut être de quelques heures à 2-3 jours. Beaucoup de femmes, bien sûr, mais aussi les hommes. C'est vrai,
c'est ce que
vous disiez tout à l'heure, c'est parfaitement exact.
Benoît en parlait.
Et ensuite, ça disparaît, parce qu'il faut se mettre, on se met un peu dans le bain, on se met un petit peu dans la routine, et puis on s'adapte. On s'adapte, en fait, hein, parce qu'il y a tellement de changements que c'est très impressionnant. Ça fait partie de ces traumatismes, entre guillemets, même si c'est un miracle, mais c'est quand même traumatisant. Et ensuite... si une dépression arrive, c'est ça la dépression du postpartum, c'est à partir du premier mois jusque dans toute l'année. Et cette dépression-là, c'est celle-là qui est la plus embêtante. Ouais. Et c'est celle-là qui apparaît le plus souvent lorsqu'il y a déjà eu des antécédents de dépression.
Mais est-ce qu'on peut avoir cette dépression sans avoir eu de dépression avant ?
Sans avoir eu de baby blues ?
Oui.
Le baby blues passe parfois inaperçu. Mais la plupart du temps, il est constant. Enfin, mm-hmm. Il me paraît constant.
Mm-hmm. Et des
voit toujours cette...
Et des scénarios comme laisser son enfant, ça arrive très fréquemment ?
C'est un élément de gravité de la chose. C'est que ce ne sont pas seulement des envies de laisser son enfant, c'est même parfois des images récurrentes d'infanticide.
Ah oui, ça c'est vrai. Moi j'avais peur de passer à côté de couteau.
Voilà.
Quand j'avais mon bébé, j'ai tout à coup un réflexe. Mais c'est bizarre là, dans la tête, hein, ce qui se passe.
Ouais, avec le manque de fatigue, tout ça. Là,
c'est Alors c'est quoi? C'est amour-haine? C'est quelque chose de nouveau, tellement nouveau qu'on a peur de ne pas être à la hauteur?
C'est exactement ça. On pense ne pas être à la hauteur. Et puis on se trouve seul en réalité. Il y a quand même une chose importante, c'est qu'en 10 ans, comme vous le disiez tout à l'heure, Sophie, le nombre de dépressions du postpartum a augmenté de 13 à 20% environ. Oui. Mais c'est pas la même augmentation. Il n'y a pas la même augmentation en Amérique du Sud. Parce que les gens sont là.
Voilà,
la famille est très importante.
C'est ça. Il y a du soutien.
En Italie, il n'y en a pas.
Mais non,
beaucoup
mais il
moins.
Fait beau aussi. Mais...
c'est vrai. Mais c'est bon, bébé. C'est vrai.
La chaleur humaine. Alors, on va discuter avec vous du lait, l'allaitement. Justement, encore une autre pression supplémentaire que les femmes ont, se donnent. Et aussi, l'entourage. Ah, tu l'as allaité? Non, tu ne l'as pas allaité. Puis les gens sont comme déçus. Là. Et ça, c'est vrai. Et puis, la pression qu'on se met. On s'en met toutes de la pression.
Après, si on allait trop longtemps, on se fait juger.
Ah oui, puis où est-ce que... Alors l'allaitement, on va parler évidemment, on connaît les bienfaits de l'allaitement, toutes les vitamines et tout ça, mais bon, qu'est-ce qu'il faut manger? Si j'ai envie d'allaiter, puis je me rends jusqu'au bout parce que je suis bien faite, puis je suis en forme, puis tout ça, je vais allaiter mon enfant, qu'est-ce que je dois éliminer si je veux l'allaiter?
Ce qu'il faut éliminer, c'est... D'abord, ce qu'il faut prendre, c'est de toute façon une alimentation qui est relativement équilibrée, hein, c'est-à-dire il faut prendre des protéines, il faut prendre des fibres, il faut prendre des sucres et des lipides, ça c'est évident. Par contre, ce qu'il faut éliminer, c'est les drogues, l'alcool.
Ah, l'alcool, oui. Même pas le petit verre de rouge, là, c'est fini. Hein.
Ah, le petit verre de rouge, il faut le prendre peut-être plutôt après avoir allaité, parce que sinon, il risque de passer dans le lait. Donc, et donc, à ce moment-là, on risque d'avoir des effets chez l'enfant. Mais bon, c'est un petit verre de rouge dans la journée, c'est pas trop grave si c'est après l'allaitement.
D'accord. Et dans l'alimentation, on doit changer des choses
Dans l'alimentation, il n'y a pas de choses à changer particulièrement. Il faut manger du fer, il faut manger, puisqu'on risque d'être anémié. En général, il y a une anémie.
Et qu'est-ce qu'il y a dans ce fameux lait maternisé? Qu'est-ce qu'il y a de... On dit que
c'est super principalement bon, de la farine. Le lait maternisé en lui-même, c'est principalement des farines.
Ah.
C'est du lait en poudre, plus supplémenté en farine, de manière à augmenter l'apport calorique chez l'enfant.
D'accord.
C'est vrai qu'il vaut mieux le donner lorsque la mère n'a pas assez de lait. Ou lorsque le bébé n'a pas une belle courbe de poids.
Et le lait maternel, les vitamines?
C'est mieux, c'est évidemment mieux. Mais il ne faut pas non plus mettre la pression. C'est vrai qu'il y a plus des anticorps. On est bourré d'anticorps. Le lait est bourré d'anticorps. Pour les enfants, c'est parfait. C'est ça qui les protège après, lorsqu'ils vont avoir fini de boire le lait de la mère. C'est ça qui les protège contre les infections. Mais il ne faut pas non plus mettre la pression quand même. Hein, parce que c'est vrai que si on n'a pas assez de lait, on n'est pas une mauvaise mère. Hein, ce n'est pas grave.
Est-ce qu'il y a un temps? Parce que justement, Claudia en parlait, il y a encore un jugement au niveau de la société. Moi, je me souviens d'être allée chez des amis, puis à un moment donné, il y avait quelqu'un qui est arrivé par hasard à table et dit « Tu l'allaites encore, ton enfant ?» Puis j'ai défendu ma copine. Parce que, est-ce qu'il y a un temps pour arrêter d'allaiter
Il n'y a pas de temps particulier, en fait. C'est juste une question de pratique, c'est-à-dire que l'enfant va peut-être aller chez une nourrice ou il va peut-être rencontrer des copains et la mère va peut-être elle-même vouloir se mettre à travailler. Donc, ça sera moins commode d'allaiter l'enfant, simplement. Mais il n'y a pas tellement de limites.
Parce que moi, je fais le mix avec mes deux enfants. Voilà, donc, j'ai fait ça longtemps. Même, j'allaite encore mon petit dernier et puis deux fois par jour, matin et soir.
Et donc, on peut faire un mix, c'est-à-dire prendre du lait maternisé en poudre.
Tirer son lait.
Oh, oui.
Ou allaiter.
Ou allaiter, donner du lait de vache parce que l'enfant est plus grand. Puis, ouais, c'est ça. C'est ce que je fais.
Ouais. Et il a quel âge?
15 mois. Donc, j'allaite. Puis, sérieusement, là, je vous le dis, si j'avais pas une pression sociale de mon entourage qui me regarde étrangement, je l'allaiterais très longtemps.
Ouais. Très longtemps.
Jusqu'à son mariage, je pense.
Alors, c'est ça, Claudia, la pression sociale dont je parlais. Hein.
Ah, j'aime. Ben, parce
les
que
gens
c'est
sont,
ça.
Sont,
ils sont très durs. Ils se mêlent beaucoup de ce qui ne les regarde pas. C'est très, très frustrant quand on tente de faire ce qu'on peut ou quand on y va d'instinct. Brisez pas mon instinct. Je décide, je fais ce que je veux. Moi, je me fous des gens, je le fais. Là. Et je vais l'allaiter jusqu'à temps que j'en ai envie. Là.
Mais le regard, c'est difficile. Moi, je me rappelle d'avoir croisé des regards sur la mère de ma fille. Pour toutes sortes de raisons, parce qu'elle n'arrivait pas à arrêter de fumer complètement, des choses comme ça.
Ah, ça, les gens jugent beaucoup aussi, les fumeuses. Ah, oui.
Alors, toutes sortes d'aspects. Ouais.
Alors, donc, que des bons mots pour l'allaitement, mais il faut faire attention à certains aliments et pas de drogue, pas d'alcool, bien
pas
évidemment.
Pas de tabac non plus, et surtout, pas de tabac passif. Parce qu'on parle beaucoup du tabac qu'on fume et qui passe ensuite dans le lait, ce qui est évidemment pas le meilleur, mais l'important, c'est le tabac passif. Évitez ça.
Voilà, on va rappeler aux gens ce que c'est, le tabac passif.
Alors, le tabac passif, c'est le bébé qui est exposé à la fumée de la cigarette. Uh-huh. Et donc, il fume, lui, de manière passive. Il a pas
il est assis derrière, puis par exemple, le papa ou la maman en avant dans la voiture, les quatre fenêtres fermées.
C'est ça.
J'ai vu ça encore hier.
J'ai vécu ça quand
j'étais
jeune.
Au début, je pensais que c'était parce qu'il faisait froid, il y avait de la fumée, puis j'approchais, puis j'ai vu ça, puis j'étais comme « Oh, j'avais envie de prendre le bébé dans mes bras, me dire « Non, 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 s'il vous plaît. »
Mais c'est certain qu'on reparlera de la boucane, tout simplement. Mais avant, j'avais envie de me retourner à deux instants vers Claudia. On sait, pour vous, la littérature, c'est bon pour la santé, mais qu'est-ce que vous avez apprécié durant cette émission? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez appris, qui vous ont interpellé du point de vue de votre santé?
Durant cette émission? Ouais. Une question?
Non, avant la question.
Avant la question, OK. J'espère que ce n'est pas une question piège.
Non, non! Mais allez-y du cœur. Qu'est-ce qui vous a touché là, pendant cette émission? Est-ce que des questions qui vous interpellent plus que d'autres?
Ben, c'est sûr que tout ce qui touche le fait d'avoir un enfant, ce que ça peut faire au niveau du couple, dans la sexualité, par exemple, tout ça m'intéresse, m'intrigue énormément aussi. L'allaitement dont il était question, le monde des cosmétiques, même moi, j'ai un côté qui adore ça, là, tout ce
vous
qui
est... Vous n'avez pas le choix, vous êtes une fille d'écran aussi. Il y a quand même des exigences qui viennent avec ça.
Ça me détend, je dirais, ça me détend l'esprit. Ah ouais, moi, les petites crèmes, les petits pots, j'adore ça. Donc, tout ce dont il a été question, je trouve que vous avez une émission fort intéressante. Vraiment, là, je vous le dis de tout cœur. Et d'aborder des questions audacieuses, des questions parfois taboues là, sur la santé sexuelle et physique des femmes après l'accouchement. Moi, sérieusement, c'est sûr que j'y trouve mon compte. Et absolument, j'avais beaucoup de questions auxquelles on a répondu. Là,
Et comme on est en présence d'un médecin en plus... Je vous invite à lui poser la question que vous avez toujours pas osé poser à votre médecin. Alors, vous y allez maintenant.
Bon, alors, j'ai une question, docteur. C'est parce que moi, il m'arrive de fumer, OK? Là, tout le monde va me dire « Ah, elle fume! » Je fume la cigarette occasionnellement. C'est-à-dire que parfois, en prenant un verre avec des amis, on sort dehors, même s'il fait moins 25. Jamais on ne fume à l'intérieur, justement à fumer secondaire et tout. Mais on va fumer notre petite cigarette, OK? Alors, je vous le dis, ça arrive pas tous les jours, évidemment, mais on l'aime. Et pour nous, c'est comme fumer notre petite drogue. On ne consomme même pas de marijuana, même si ça va être légal, mais on ne le fait pas, nous. Hein, on est sage, mais le tabac, c'est une fois de temps en temps, on a l'impression de se partager le calumet de paix, comme les Amérindiens.
C'est bien dit, ça.
Alors, c'est vraiment le feeling qu'on a. Et puis, je me sens tellement mal à chaque fois. Je me dis, mon Dieu, je vais attraper le cancer. Je vais avoir le cancer à cause de ça. Alors, ma question, c'est, est-ce que si on fume une fois, de temps en temps, une petite cigarette, est-ce que c'est grave, docteur?
Est-ce que c'est grave? Eh oui, c'est toujours tentant d'en fumer une, mais c'est vrai que les dernières études, il y a quelques études qui viennent de sortir.
OK.
Mais c'est tout frais. Et contrairement à ce qu'on peut croire, c'est que fumer une cigarette par jour, c'est dangereux.
Ah oui, hein.
Oh. Et ça multiplie par 9 à 12, selon les études, le risque d'avoir un cancer par rapport à ceux qui ne fument pas du tout. Mais je dis bien une cigarette par jour. Si c'est une cigarette par
an...
Donc,
il n'y a pas de minimum, finalement.
Non, il n'y a pas de petits fumeurs.
Mais pendant longtemps, on le disait, le moins de 5 cigarettes par jour, c'est moins pire, mais c'est toujours très nocif.
Et c'est, finalement, 5 cigarettes ou une cigarette, c'est le risque est le même. Et on arrive à, si on fume 15 cigarettes ou 20 cigarettes par jour, on augmente un petit peu le risque.
Ouais.
Donc, évidemment, on ne va pas dire qu'il vaut mieux fumer un paquet que fumer une seule cigarette, mais c'est vrai que la cigarette qu'on se donne comme ça, qu'on s'offre, en se disant « Attends, une petite cigarette seulement, c'est pas grand-chose. » Puis si, en fait, c'est dangereux.
Ah bon, mais...
C'est dangereux. Alors, il y a aussi le fait que les assurances, pour les assurances vie...
Moi, ça, je sais, on peut pas fumer.
Alors, quand ils disent « non-fumeur », c'est vraiment « non-fumeur ».
Je sais ça, à chaque
c'est
fois.
C'est pas une cigarette. Ouais.
La réponse, une fois de temps en temps, c'est pas « no good », c'est pas bon,
oui.
Ça.
Oui.
Ah, mais vous savez, ces compagnies d'assurance ont toujours les moyens de faire l'argent sur nous.
J'arrêterai complètement à ce moment-là.
Qu'est-ce qu'elle pourrait prendre de sympathique au lieu d'une cigarette?
Son
calumet de pelle, hein, ça pourrait être quoi?
La vapoteuse, je sais pas.
La vapoteuse a probablement le même risque.
Ah.
Il semblerait qu'elle ait le même risque.
Ouais, parce que les études...
Je ne vais pas terminer sur ça.
Je crois qu'il y a des études qui sont en cours.
Il y a plein d'études, mais les premiers résultats montrent qu'il y a probablement quand même un risque, bien sûr, de fumer, de vapoter, puisqu'il y a quand même des produits. Ce n'est pas que de la vapeur d'eau qu'on absorbe. Il y a aussi la nicotine qu'on absorbe, qui est transformée.
Mais s'il n'y a pas de nicotine, justement, si on a une vapoteuse sans nicotine.
Mais alors,
Benoît,
il n'y a plus rien.
Ben,
c'est plus que de la vapeur.
Il peut avoir du plaisir. Non, moi, je fais plus, là, je vous assure.
On va tenir un stylo, là.
Non, mais moi, ce que je trouve désolant, docteur, c'est qu'on ne peut plus rien faire.
Non.
Tout est dans l'espèce de rectitude. On ne peut plus faire ci, on ne peut plus fumer, on ne peut plus gnagnagna. En même temps, on légalise le pot. Alors là, c'est où, là, qu'on s'en va avec tous ces paradoxes? Ça me choque. Heureusement, il reste le vin rouge. Et moi, je le bois, je le revendique, mon droit à boire de l'alcool, parce que je trouve ça dur, ces espèces de politiques, de restrictions, puis il faut bien manger, soyez vegan.
Mais il le dit quand même, parce qu'une cigarette, là, c'est quand même pas comme 10. Mais il peut pas dire que c'est bon, c'est un docteur.
Nous, on vous le dit,
on n'est pas des spécialistes.
c'est pour ça qu'on invite notre docteur, là.
Mais c'est un peu prenant, c'est un peu étouffant, c'est de vivre dans ce monde d'espèces de compression, puis de... Voilà.
Mais
maman, ça c'était ma minute éditoriale.
De la belle vie en vous. On aime ce que vous dites, la littérature. On aime votre tendresse quand
même
vous
si
parlez
je fume
de vos enfants.
Par
et
moi.
Je vous aime d'amour,
non,
même
non,
si
c'est
une seule cigarette.
Ça change.
Merci beaucoup d'avoir participé
merci
à cette émission.
À c'était un plaisir, vraiment.
Merci. Alors, merci à notre équipe, nos chroniqueurs Sonia Boucher, sexologue, Dr François Baruel, médecin de famille et stomatologue, David Savard, naturopathe, sans oublier Chantal Goyette, spécialiste du monde des cosmétiques.
Cette émission n'aurait pas été possible sans Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde, Christiane Campagna aux communications et Catherine Bourderon à la recherche.
Qu'on se le dise, peu importe l'âge, un bon livre, ça nous fait du bien.
Et ici Benoît Assette.
Et Sophie Stanquet.
C'est bon pour la santé!